إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى علي: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. دبخ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى دي: أو مساجد الله، informe-moi au sujet d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et m'éloignera de l'enfer. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, tu demandes une chose vraiment immense, mais qui est facile pour celui auquel Allah l'a facilité. Tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé. Accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage de la maison sacrée. Puis il ajouta: ne souhaites-tu pas que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est une protection. L'aumône éteint l'erreur comme l'eau éteint le feu. De même que la prière de l'homme en pleine nuit. Puis il récita: ils s'arrachent de leur lit jusqu'à ce qu'ils œuvraient, c'est-à-dire les versets 16 et 17 de Surat al-Sajda. Puis il dit: ne souhaites-tu pas que je t'indique la chose capitale, son pilier, son sommet? Je dis si, au messager d'Allah. Il dit: la chose capitale est l'islam, son pilier est la prière, et son sommet est la lutte, c'est-à-dire la lutte sur le sentier d'Allah. Puis il dit: ne souhaites-tu pas que je t'indique de quoi dépend tout cela? Je dis si, au messager d'Allah. Il saisit alors sa langue et dit: retiens bien ceci. Je dis: ô prophète d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Il dit alors: que ta mère te perde, ô Mu'ad. Qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est ce que leur langue ont semé? Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit: c'est un hadith bon et authentique. Dans ce hadith, on voit quelles étaient les ambitions des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Regardez Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, cette question immense qu'il est venu poser au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne l'a pas interrogé sur les biens de ce bas monde. Il ne l'a pas interrogé sur une chose lui permettant d'obtenir beaucoup d'argent. Mais il l'a interrogé au sujet d'une œuvre qui le fait entrer au paradis et l'éloigne du feu de l'enfer. C'est-à-dire une œuvre qui sera la cause de son entrée au paradis et de son éloignement de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors dit: tu demandes une chose vraiment immense. En effet, si tu médites sur la question de Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, tu verras que c'est l'objectif de ta présence dans ce bas monde. Œuvrer pour entrer au paradis et pour t'écarter du feu de l'enfer. Et celui qui obtient cela, il n'y a pas de doute qu'il aura obtenu la réussite et le succès dans ce bas monde. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 185 de Surat Ali Imran: فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Quiconque est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la question de Mu'adh radiallahu ta'ala anhu comme étant une question immense. Tu demandes une chose vraiment immense. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit après? Mais elle est facile pour celui auquel Allah l'a facilité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. En effet, la religion de l'islam, sur quoi est-elle basée? Elle est basée sur la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son noble livre, comme verset 185 de Surat al-Baqarah, « Yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. » Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alors qu'il envoyait certains de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum au combat, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Facilitez, rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Et il a dit dans un autre hadith, vous êtes envoyé pour faciliter les choses et vous n'êtes pas envoyé pour les rendre difficiles. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc la religion de l'islam, elle est basée sur la facilité, car elle est simple pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a facilité. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cela. Il a expliqué quelle est cette chose immense qui fait entrer au paradis et qui écarte et éloigne du feu de l'enfer. Il a dit, tu dois adorer Allah. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Te soumettre et t'humilier devant lui par l'adoration, par amour et par vénération. Par amour, car cet amour, il va te pousser à multiplier les actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à te rapprocher de lui en te soumettant à ses ordres. Et par vénération que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle va te pousser à délaisser les péchés et les désobéissances et à t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Il a donc commencé par lui dire, tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé, quel qu'il soit, même les prophètes alayhim salatu wassalam. En effet, les prophètes, alayhim salatu wassalam, du premier jusqu'au dernier, ils sont tous venus pour combattre le shirk, pour combattre le polythéisme et le fait de donner des associés à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois donc donner aucun associé à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son adoration. Pas même un ange rapproché, ni même un prophète envoyé. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque. Et ceux-ci sont donc les cinq piliers de l'islam que l'on a vu dans le hadith d'Ibril, alayhi salam, ainsi que dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhumah, qui sont donc les deuxième et troisième hadith de cet ouvrage. Et on a vu les détails au sujet de piliers de l'islam et on ne va pas revenir dessus ici. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne souhaites-tu pas que je t'indique les portes du bien? C'est-à-dire les moyens permettant d'atteindre le bien, les moyens permettant d'être dans le bien et d'œuvrer dans le bien. Et il lui a dit, le jeûne est une protection. C'est-à-dire que le jeûne, il protège son auteur dans ce bas monde et il le protège aussi dans l'au-delà. Dans ce bas monde, le jeûne, il empêche son auteur d'assouvir ses désirs interdits durant le jeûne, parmi les choses qui sont interdites durant le jeûne. Et également, le jeûne est une cause qui l'aide à s'éloigner des péchés. C'est pour cela que lorsque tu jeûnes, il ne t'est pas permis de rendre l'appareil à celui qui est injuste ou transgresse envers toi. S'il t'insulte ou te parle mal, qu'est-ce que tu dois lui répondre? Comme il est venu dans le hadith, tu lui dis « Inni sa'im, je suis jeûneur ». C'est-à-dire, si je ne jeûnais pas, j'aurais pu te répondre et te rendre l'appareil. Mais le jeûne m'empêche, est une protection contre le fait de te répondre de la même manière. Et dans l'au-delà, le jeûne, c'est une protection contre le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, ces jours de jeûne que tu as accomplis dans ce bas monde, ce seront une protection pour toi contre le feu de l'enfer. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'aumône éteint l'erreur comme l'eau éteint le feu. C'est-à-dire que l'aumône, de manière absolue, que ce soit la zakat qui est obligatoire, ou alors les aumônes surérogatoires, qu'elles soient petites ou abondantes, elle éteint l'erreur. C'est-à-dire, elle efface l'erreur, le péché, la mauvaise action commise par l'enfant d'Adam, de la même manière que l'eau éteint le feu. En effet, lorsque tu mets de l'eau sur le feu, cette eau, elle va l'éteindre sans aucun doute. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé cette chose tangible avec les péchés qui sont éteints, c'est-à-dire effacés, par l'aumône. Donc lorsque tu fais des aumônes, cela est une cause pour te faire pardonner tes péchés. Ensuite, il a dit, de même que la prière de l'homme en pleine nuit. C'est-à-dire également la prière de l'homme en pleine nuit, elle éteint l'erreur, elle efface l'erreur et les péchés, comme l'eau éteint le feu. Et ceci est un des mérites de la prière de nuit. La prière de nuit, c'est une cause également pour te faire pardonner tes péchés, pour effacer tes mauvaises actions. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité les versets 16 et 17 de Surat al-Sajda. Où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Tatajafa junubuhum anil madaji' yadu'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqoon fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min kurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun » Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur. C'est-à-dire ils se lèvent en pleine nuit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et ils font largesse, ils font don de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, c'est-à-dire au paradis, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ces versets pour nous montrer le mérite de la prière de nuit. Et dans ce verset, Allah il dit donc, selon la traduction des sens rapprochés, ils s'arrachent de leur lit. Et ceci est la description des croyants. Ils se lèvent la nuit et ne dorment pas. Et pourquoi ils se lèvent? Pour invoquer leur Seigneur. Pour invoquer leur Seigneur, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Par crainte et espoir. Par crainte, lorsqu'ils se rappellent de leurs péchés et des manquements qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le craignent et ont peur de son châtiment. Et lorsqu'ils se rappellent de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des délices qu'il a promis à ses serviteurs pieux, alors ils ont de l'espoir et espèrent se faire pardonner et que leurs œuvres soient acceptées. Ils sont donc entre la peur et l'espoir et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. C'est-à-dire qu'ils donnent et font des aumônes d'une part de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué comme subsistance. Et on peut comprendre aussi que ces aumônes qu'ils font, ils ne les font que avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué. Donc c'est bien que tu dépenses en aumône, qu'il soit peu ou abondant, tu dois te rappeler qu'ils ne proviennent que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dépenses donc les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés sur le sentier d'Allah pour obtenir son pardon et sa miséricorde ainsi que son agrément. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala selon la traduction des sens rapprochés, aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour leurs yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. En effet, le croyant, il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour lui au paradis. C'est pour ça qu'il œuvre dans ce bas monde, se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits par espoir d'obtenir cette rétribution au jour de la résurrection en récompense de ses œuvres. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, ne souhaites-tu pas que je t'indique la chose capitale, son pilier, son sommet? Il va donc l'informer au sujet de trois choses. Une chose capitale, le pilier de cette chose et le sommet de cette chose. Mu'adh, il lui a alors dit, mais si, ô messager d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a alors dit, la chose capitale est l'islam. C'est-à-dire la chose pour laquelle tu as été créé. La chose la plus importante de laquelle tu dois prendre soin, c'est l'islam, c'est ta religion. Le fait que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien en apparence, avec ton corps et ta langue, que dans ton fort intérieur, dans ton cœur. Tu dois te soumettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la chose capitale, c'est la raison de ta présence sur terre. Que tu te soumettes à Allah subhanahu wa ta'ala
par la religion de l'islam.
Ensuite, il lui dit,
et son pilier, la prière, c'est-à-dire le pilier de l'islam. Ce sont les 5 prières obligatoires. Et le pilier d'une chose, c'est ce sur quoi elle repose. C'est-à-dire que si tu lui retires son pilier, la chose, elle s'écroule. Donc l'islam, il repose sur quoi? Il repose sur son pilier, qui est la prière.
Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et son sommet est la lutte. C'est-à-dire la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est la chose la plus élevée et le plus haut degré de l'islam. Le fait de lutter sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour quelle raison a lieu la lutte sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Pour que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus élevée. Ensuite, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne souhaites-tu pas que je t'indique de quoi dépend tout cela? C'est-à-dire, à quoi est lié tout cela? Alors Mu'adh lui a dit, mais si, au messager d'Allah. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a saisi sa langue. Il a pris sa propre langue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa langue et lui dit, retiens bien ceci. C'est-à-dire, retiens ta langue. Ne délie pas ta langue dans les propos futiles, dans les ragots, dans les ondits, ou pire encore, dans les choses interdites. Retiens ta langue. Comme on l'a vu dans le hadith précédent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien, ou quoi? Ou qu'il se taise. C'est-à-dire, retiens ta langue, si ce n'est pour prononcer une parole de bien. Et si cela est pour prononcer autre qu'une parole de bien, alors retiens-la bien et ne la délie pas. Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, il lui a alors dit, ô prophète d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? C'est-à-dire qu'il s'est étonné, radiallahu ta'ala anhu, que l'homme puisse être châtié pour une parole. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, que ta mère te perde, Mu'adh. Et ceci est une expression qui était employée par les Arabes et dont le sens apparent n'est pas visé. Ce n'est pas une invocation ici qu'il fait contre lui, mais le but est de l'inciter et de l'encourager afin qu'il comprenne ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit donc, que ta mère te perde, ô Mu'adh, et qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez? Et ceci est une hésitation du rapporteur du hadith. Qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez? Si ce n'est ce que leur langue ont semé. C'est-à-dire ce que leur langue ont semé comme parole, comme mauvaise parole, en courant ainsi le châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, avec la langue, l'homme il peut prononcer des paroles de polythéisme, l'homme il peut prononcer des paroles de mécréance, l'homme il peut prononcer des paroles obscènes, des paroles interdites, et autre chose parmi les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le mal de la langue, il est donc très grand. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a adressé cette recommandation ici dans ce hadith. Retiens bien ceci, retiens bien ta langue et prends garde à ne prononcer avec cette langue que des paroles de bien. Donc après cette explication concise de ce hadith, on va maintenant mentionner un certain nombre de bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Et les bénéfices, comme vous allez le voir, ils sont très nombreux et on va essayer de résumer cela au maximum, incha'Allah ta'ala. Premièrement, on tire comme bénéfice de ce hadith le grand désir des compagnons radiallahu ta'ala anhum à apprendre la science profitable. Et c'est pour cela, comme on le voit dans de nombreux hadiths, l'un d'entre eux vient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'interroge au sujet de la science. Comme c'est le cas dans ce hadith. Mu'adh radiallahu ta'ala anhu vient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui demande de lui indiquer une œuvre qui le fait entrer au paradis et l'écarte du feu de l'enfer. Et comme on l'a mentionné déjà dans l'explication d'autres hadiths, l'objectif des compagnons radiallahu ta'ala anhum lorsqu'ils posaient des questions, ce n'était pas simplement de connaître les réponses. Ce n'était pas simplement d'emmagasiner la science et les connaissances. Mais leur objectif, c'était quoi? Leur objectif, c'était de mettre en pratique la réponse donnée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Leur objectif et leur finalité étaient la mise en pratique, œuvrer pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas comme le font nombre de personnes aujourd'hui qui posent des questions, se renseignent sur la science sans aucune ambition, sans aucune motivation pour mettre en pratique cette science qu'ils sont en train d'écouter, pour mettre en pratique cette science au sujet de laquelle ils interrogent. Parfois, une personne pose une question, tu lui dis, pourquoi tu demandes cela? Comme ça, pour savoir. Mais les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient des ambitions bien plus grandes que cela. Leur objectif, c'était de mettre en pratique cette science. Car ils avaient conscience que cette science, comme on l'a vu dans d'autres hadiths, c'est une preuve pour ou contre toi. Si tu la mets en pratique, c'est une preuve pour toi. Et si tu ne la mets pas en pratique, alors c'est une preuve contre toi. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Deuxièmement, parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith, il y a l'ambition éminente de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu. En effet, on voit dans ce hadith qu'il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne l'a pas interrogé au sujet des affaires de ce bas monde, mais il l'a interrogé au sujet des affaires de l'au-delà, ce qui est bien plus important. Informe-moi au sujet d'une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu de l'enfer. Ceci nous montre l'ambition éminente des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils savaient qu'ils n'étaient que de passage dans ce bas monde et que l'objectif de ce bas monde n'est que de prendre ses provisions pour entrer au paradis dans l'au-delà et obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith l'affirmation et la confirmation de l'existence du paradis et de l'enfer. Et ceci fait partie de la foi au jour dernier, comme on l'a vu lors de l'explication des six piliers de la foi. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que les œuvres que tu accomplis pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour lui et conformément à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ce sont des causes pour rentrer au paradis et pour t'écarter du feu de l'enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu sur cette question. Il lui a demandé une œuvre qui le fait entrer au paradis et qui l'éloigne du feu de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a indiqué cela. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que cette question qu'a posée Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, c'est une question immense. Car en réalité, c'est le secret de la vie et le secret de l'existence, le secret de notre présence sur terre. Toute personne parmi les enfants d'Adam ou les djinns, il n'est dans ce bas monde que pour atteindre cette finalité, qui sera ou le paradis ou le feu de l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis. Donc cette question, on voit que c'est une question immense, une question très importante, qui porte sur l'objectif et la finalité de ta présence sur terre, soit le paradis, soit l'enfer. Sixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que malgré que cette chose soit une chose immense, elle est simple et facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a facilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis de difficultés dans la religion. Mais la religion de l'islam, elle est basée sur la facilité, comme on l'a vu à travers le verset et les hadiths que l'on a mentionnés. Septièmement, il y a le fait qu'il convient à l'homme de sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter aussi bien dans ses affaires religieuses que dans ses affaires mondaines. Car toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité, alors elle sera difficile. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne facilite pas les choses, tu le verras toujours dans la difficulté. C'est pour cela que l'on doit sans cesse demander à Allah subhanahu wa ta'ala la facilité, de nous faciliter le fait de nous rapprocher de lui, de nous aider à son évocation subhanahu wa ta'ala, de nous aider à l'adorer de la meilleure manière, de nous aider à être reconnaissants envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et toute chose que l'on souhaite accomplir, on doit demander pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Comme il est venu dans un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demandez toute chose à Allah, même pour les lacets de vos chaussures, car si Allah ne vous le facilite pas, ce ne sera pas facilité. C'est-à-dire même les lacets de tes chaussures lorsqu'ils se défont, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te facilite pas pour les faire, alors ce sera difficile pour toi. C'est pour cela que tu dois demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose. Qu'il te facilite, subhanahu wa ta'ala. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith une preuve de plus concernant les cinq piliers de l'islam. Comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu lui a demandé une œuvre qui le fera entrer au paradis et l'éloignera du feu de l'enfer, il lui a répondu, tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé, accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage de la maison sacrée. Ceux-ci sont les cinq piliers de l'islam, comme on l'a vu dans les hadiths précédents. Neuvièmement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith que la chose la plus importante et la plus grande des obligations, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala sans ne lui donner aucun associé. C'est-à-dire le tawhid. C'est la chose la plus importante par laquelle la personne doit commencer. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par quoi il a commencé ici. Tu dois adorer Allah sans ne lui donner aucun associé. Tu commences par cela. Car celui qui commence par accomplir la prière, faire la zakat, jeûner le mois de Ramadan, mais qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ceci va lui être profitable? Ceci ne lui sera d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce qu'il se repente du shirk. Jusqu'à ce qu'il délaisse le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il voue un culte exclusif et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le tawhid, c'est la chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche et son appel aux gens de son peuple. Le tawhid, c'est le prêche des prophètes alayhim salatu wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé un messager sans lui ordonner d'appeler au tawhid, sans lui ordonner d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de toute forme de shirk, de s'écarter de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé certains de ses compagnons pour prêcher, la première chose qu'il leur a ordonné, c'était quoi? D'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on peut le voir dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il mentionne que Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen pour appeler les gens à l'islam, il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent dans cela, alors informe-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour et de nuit. S'ils t'obéissent dans cela, s'ils ne t'obéissent pas dans cela, qu'ils ne veulent pas délaisser le shirk, qu'ils veulent rester dans le polythéisme, alors il n'y a aucun intérêt à leur enseigner la prière. La prière, elle n'est enseignée qu'à celui qui a accepté de vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala en rejetant l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc pour cela que la chose la plus importante par laquelle la personne qui souhaite se lancer dans le prêche doit commencer, c'est l'appel au tawhid, l'appel au culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Dixièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith le mérite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa bonne manière d'enseigner les choses à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. En effet, on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exposé des choses en plus de ce que Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu lui a demandé. Ne souhaites-tu pas que je t'indique les portes du bien? C'est-à-dire, en plus de cette chose, je vais t'indiquer des choses qui vont te mener au bien, te permettre d'œuvrer dans le bien. Et ceci faisait partie des habitudes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Onzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que le jeûne est une protection, comme on l'a vu dans l'explication du hadith. Une protection pour son auteur ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Donc on tire de cela que celui dont le jeûne n'est pas une protection et ne l'empêche pas de commettre des choses illicites, alors son jeûne est défaillant. Il y a des manquements dans son jeûne. Il ne l'accomplit pas comme il se doit. C'est pour cela qu'il est encore plus interdit à l'homme, lorsqu'il jeûne, de commettre des péchés. Et les péchés sont plus graves lorsque tu jeûnes. Tu dois d'autant plus les délaisser lorsque tu es en train de jeûner. Et la question qui pourrait se poser ici, c'est est-ce que les péchés annulent le jeûne ou non? Et la réponse à cette question, c'est que si cet interdit est spécifique au jeûne, alors il annule le jeûne. Mais s'il est général et n'est pas spécifique au jeûne, alors il ne l'annule pas. Par exemple, il est spécifiquement interdit au jeûneur de manger et de boire durant la journée. Donc ceci est une interdiction spécifique au jeûne. S'il mange et boit durant la journée, son jeûne est invalide, il est annulé. Par contre, la médisance, elle est interdite pour le jeûneur ainsi que pour celui qui ne jeûne pas. Son interdiction est générale et elle n'est pas spécifique au jeûne. Donc si le jeûneur, il commet la médisance alors qu'il est en train de jeûner, cette médisance, elle n'invalide pas son jeûne car son interdiction n'est pas spécifique au jeûne. Cependant, la récompense de son jeûne, elle en est diminuée. Douzièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que l'aumône efface les péchés. Et ceci doit encourager à multiplier les aumônes, à dépenser de tes biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, en les donnant aux pauvres, en donnant des aumônes, que ce soit pour la mosquée, pour les nécessiteux ou autres portes de biens dans lesquelles tu peux dépenser ton argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu multiplies les aumônes afin d'effacer tes péchés. Car nos péchés, ils sont nombreux. On ne peut pas les recenser. Donc on doit faire des efforts pour multiplier les œuvres qui permettent d'effacer nos péchés. Et certes, l'aumône est une des œuvres méritoires qui permettent d'atteindre cet objectif qui est d'effacer les péchés. Et l'aumône, elle a de nombreux mérites. On peut mentionner à titre d'exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit au sujet des 7 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de son ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Qui l'a mentionné parmi eux? Un homme qui fait une aumône et la cache au point que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite dépense. C'est-à-dire qu'il fait une aumône et en plus de cela, il l'a fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se cache pour la faire. Il ne fait pas d'ostentation dans son œuvre. Et il sera parmi ces 7 personnes qui seront à l'ombre au jour de la résurrection, alors que les gens souffriront de la chaleur de ce jour terrible. 13. On compte parmi les bénéfices de ce hadith que l'erreur ou le péché, il comprend une certaine chaleur. Et ce, car l'homme, à cause des péchés, il peut être châtié par le feu de l'enfer. Alors que l'aumône, elle comprend une certaine fraîcheur. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé l'aumône à de l'eau qui éteint le feu. C'est-à-dire, elle vient te protéger du feu de l'enfer. 14. On tire comme bénéfice de ce hadith la bonne manière d'enseigner du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu cela à travers de nombreux hadiths. On voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donne des exemples, il donne des images afin d'aider l'auditeur à comprendre ce qu'il est en train de lui expliquer. Et ceci fait partie de sa bonne manière de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit donc prendre exemple sur lui en exposant cette religion de la meilleure manière afin que les gens comprennent ce que l'on transmet. 15. On tire comme bénéfice de ce hadith un encouragement à accomplir la prière de nuit. En effet, comme on l'a vu dans ce hadith, la prière de nuit, tout comme l'aumône, elle efface les péchés, de la même manière que l'eau éteint le feu. Donc comme on a dit, on a tous des péchés. Tous les enfants d'Adam font des péchés. Mais les meilleurs de ceux qui font des péchés, ce sont ceux qui se repentent. Et on a vu dans l'autre hadith de Mu'adh que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Fais suivre la mauvaise action d'une bonne qui l'effacera. » Donc tu multiplies les aumônes et également tu multiplies la prière de nuit afin de te faire pardonner tes mauvaises œuvres. Et certes, la noblesse du croyant, elle se trouve dans quoi? Elle se trouve dans la prière de nuit comme il est venu dans un autre hadith. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a également informé que la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est laquelle? C'est la prière de nuit. Tout ceci nous encourage donc à multiplier la prière de nuit, surtout durant ces longues nuits d'hiver qui permettent aux croyants de consacrer un peu de son temps à se lever la nuit, ne serait-ce que pour accomplir quelques rak'a, quelques unités de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. 16. On tire comme bénéfice de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam argumentait également en mentionnant des versets du Coran, comme il l'a fait ici. Il a évoqué la prière de nuit, et pour argumenter et démontrer les mérites de la prière de nuit, il a mentionné les versets 16 et 17 de Surat As-Sajda. Et comme vous le voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ces versets, et il n'a pas fait l'isti'ada avant cela. Il n'a pas dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de dire cela lorsque l'on lit le Coran. Mais ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il récitait le Coran? La réponse est non. Mais il a mentionné ce verset qu'en guise d'argumentation, en guise de preuve. Donc lorsque tu souhaites mentionner un verset pour argumenter ou pour mentionner une preuve, il n'est pas nécessaire ni de dire l'isti'ada, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ni de dire la basmala, bismillahir rahmanir rahim. Mais tu fais comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ici dans ce hadith. Tu mentionnes directement le verset. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu mentionnes le verset. Et ceci est une erreur que font certaines personnes ou certains prêcheurs. Lorsqu'ils mentionnent des versets, ils commencent par dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Et il y a une autre erreur. C'est que parfois ils disent « Allah a dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » puis il mentionne le verset qu'il veut citer. Il dit « Allah a dit » avant de dire l'isti'ada. Cela sous-entend que Allah a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ceci est une erreur. Il convient de dire Allah a dit, puis de mentionner le verset qu'il doit citer et de ne pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En effet, ceci est une erreur commise par nombre de sermonneurs. 17e, on tire comme bénéfice de ce hadith le mérite de ceux qui se lèvent la nuit pour prier. En effet, celui qui se lève la nuit alors que les gens dorment, par espoir et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui passe son temps dans la prière, alors il a une place honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la noblesse du croyant est sa prière de nuit. Donc ceux qui se lèvent la nuit pour prier, ils ont un grand mérite et une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui se lèvent de leur lit pour accomplir des futilités ou se plonger dans des distractions inutiles ou pire encore, dans des choses interdites. Alors cela, leur sommeil, il serait meilleur pour eux. Il serait meilleur pour eux de dormir plutôt que d'accomplir ces choses qui sont ou bien détestables ou bien interdites selon ce par quoi ils occupent leur nuit. 18e, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il y a parmi les bénéfices du verset par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a argumenté qu'il convient à l'homme, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer avec crainte et espoir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Ils invoquent leur Seigneur par crainte et espoir. Et ce qui est visé ici, c'est toute invocation, aussi bien l'invocation d'adoration que l'invocation de demande. Donc lorsque tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le craindre et en même temps avoir de l'espoir en lui. Tu le crains car tu crains que ton œuvre ne soit pas acceptée de toi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, alors que leurs cœurs sont pleins de crainte. C'est-à-dire qu'ils craignent que leur acte ne soit pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, tu mélanges cette crainte avec de l'espoir, en ayant une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ton espoir en lui, tu as une bonne opinion de lui, et tu espères sa récompense. Tu es donc, dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, entre la peur et l'espoir. Et les savants, ils ont mentionné beaucoup de paroles à ce sujet, concernant le fait de faire prédominer la peur ou de faire prédominer l'espoir ou de les mettre à rang égal selon les situations. Et l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'il convient à l'homme que sa peur et son espoir, ils soient égaux. Car si l'un d'entre eux prédomine, alors il court à sa perte. Tu ne dois pas faire prédominer la crainte ni faire prédominer l'espoir, mais tu dois être entre les deux. Et certains savants ont dit la peur et l'espoir, elles sont pour l'homme comme les deux ailes d'un oiseau. Elles doivent être à mesure égale. Et certains gens de science ont dit une bonne parole qui est qu'il convient à l'homme de faire prédominer l'espoir lorsqu'il est dans une situation d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsque tu es dans l'adoration, lorsque tu œuvres dans le bien, tu fais prédominer l'espoir car ceci va t'encourager à multiplier les œuvres et à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus en multipliant ce genre d'œuvres. Et si tu es dans une situation où tu es tenté par le péché, tenté par le fait de commettre une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ici tu vas faire prédominer la peur. Et ce afin de t'éloigner de ce péché et de t'en écarter. Et ceci est une bonne chose. Tu fais prédominer l'espoir lorsque tu es dans l'adoration et prédominer la peur lorsque tu es tenté par le péché. 19e, on tire comme bénéfice de ce hadith et du verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, le mérite de dépenser des biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribués. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et qui dépensent et qui font largesse, qui font don de ce que nous leur avons attribué. Et comme on a dit, ces dons que tu fais, tu ne les fais que par le risque, que par la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Tu ne dois pas penser que lorsque tu donnes quelque chose, tu fais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, en aucun cas. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a fait grâce et qui t'a accordé cette subsistance, te permettant ainsi de te rapprocher de lui en dépensant de tes biens sur son sentier, et il t'en récompensera pour cela. 20e, on tire comme bénéfice de ce hadith que la chose la plus capitale, la plus importante, ici-bas et dans l'au-delà, c'est quoi? C'est ta religion, c'est l'islam. L'islam par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Car il n'y a pas de religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est l'islam, après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc la chose la plus importante que tu dois préserver, c'est quoi? Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture, mais la chose la plus importante que tu dois préserver, c'est l'islam, ta religion. Tu dois préserver ta religion, ne pas mettre ta religion en danger. Comme l'ont dit certains salafs, si tu dois mettre en péril une chose, ne mets pas en péril ta religion. Tu dois tout faire pour préserver ta religion. Préserver ta religion qui est la chose la plus capitale, la chose la plus importante à laquelle tu dois t'accrocher. 21e, on compte parmi les bénéfices de ce hadith que la prière est le pilier de la religion. Et comme on l'a dit, aucune construction ne peut tenir sans son pilier. Donc à partir de cela, nombre de savants ont soutenu que le délaissement de la prière est de la mécréance. Et que celui qui délaisse la prière, il sort de l'islam vers la mécréance et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Car si la prière est le pilier de l'islam, c'est-à-dire que sans prière, l'islam il ne peut tenir. Il ne peut tenir droit, car c'est la prière qui la tient. Et on trouve de nombreuses paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, soutenant cela. En effet, il est impensable qu'une personne qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, elle persiste dans le délaissement de la prière. Est-ce que c'est possible d'avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de ne jamais se prosterner, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, pour Allah subhanahu wa ta'ala et de persister dans cela? Ceci est improbable. Et il faut savoir que certains savants, parmi les anciens et les contemporains, ils considèrent que le délaissement d'une seule prière jusqu'à la sortie de son temps, sans aucune excuse, alors ceci est de la mécréance. Wallahu musta'an. Cependant, le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ce qu'il soutient, c'est que la personne, elle mécroit si elle délaisse totalement la prière, qu'elle ne prie pas du tout. Quoi qu'il en soit, le délaissement ne serait-ce que d'une prière, il est très dangereux. Et c'est un des plus graves péchés duquel le musulman, il doit prendre garde et s'éloigner. 22e, on tire comme bénéfice de ce hadith que tout ce qui a été mentionné dans celui-ci, il repose sur quoi? Il dépend de quoi? Il dépend de la langue. Le fait que tu retiennes ta langue. Et ceci nous indique un 23e bénéfice, qui est le danger de la langue. En effet, la langue, elle est très dangereuse. Il se peut que l'homme, il prononce une parole, et qu'à cause de cette parole, il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il ne prête même pas attention à cette parole. Peut-être il l'a dit en plaisantant, peut-être il n'y a pas prêté attention. Mais cette parole, elle le fera plonger au plus bas fond de l'enfer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il se peut qu'avec sa langue, il prononce une parole de mécréance. Il se peut qu'avec sa langue, il prononce une parole d'apostasie, wal'ayadu billah. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que tu prononces avec ta langue. De la même manière, avec sa langue, il peut prononcer des paroles qui font partie des grands péchés, comme la médisance. La médisance et la calomnie, ces choses qui ont rempli les assises des musulmans, wallahu al-musta'an. Tu ne vas pas dans une assise sans que l'un d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'est-ce qu'il fait? Il va médire. Il va mentionner des choses sur un de ses frères qu'il réprouve et qu'il n'aimerait pas que l'on mentionne. On doit donc prendre garde à cela. Également parmi les méfaits de la langue, il y a le mensonge, al-kadhib, la calomnie et la diffamation, et nombreuses paroles qui ont conduit un certain nombre de personnes à leur perte. Wallah al-musta'an. Donc l'homme, s'il préserve sa langue, il va préserver ce qui est venu dans ce hadith, les 5 piliers de l'islam et les portes du bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres et entre ses deux jambes, alors je lui garantis le paradis. C'est-à-dire celui qui me garantit de préserver sa langue et de préserver ses parties intimes de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, alors je lui garantis le paradis. On voit donc la grande importance pour le musulman de préserver sa langue de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. 24e, on tire comme bénéfice de ce hadith la permission de prononcer une parole dont le sens apparent n'est pas voulu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, que ta mère te perde au Mu'adh. Est-ce qu'il a fait dua contre lui ici? Est-ce qu'il invoque contre Mu'adh? Est-ce qu'il souhaite que sa mère le perde? La réponse est non. Mais c'est une expression que les Arabes employaient dans le but d'encourager l'auditeur et de l'inciter à écouter ce qui vient, et non pas comme une invocation. Donc il est permis de prononcer une parole dont le sens apparent n'est pas voulu. Ceci fait partie des expressions employées par les gens. 25e, on tire comme bénéfice de ce hadith que les gens du feu de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, ils seront jetés dans le feu sur leur visage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici. Et qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez, si ce n'est ce que leur langue ont semé? Sur leur visage ou sur leur nez, le sens il est proche. Mais l'hésitation elle est venue du rapporteur comme on l'a dit. Et ceci nous indique que les gens de l'enfer, ils seront complètement humiliés et avilis. Car le visage de l'homme, c'est la chose qu'il honore. Si son visage est humilié, alors il est totalement humilié et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. 26e, on tire comme bénéfice de ce hadith le danger de délier sa langue. Comme on l'a vu dans d'autres hadiths précédents, comme le hadith que l'on a mentionné, comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Ainsi, si l'homme, il chemine sur cela dans ce bas monde et qu'il recherche à travers ses paroles le bien et qu'il évalue ses paroles avant de les prononcer. Si c'est du bien, il les prononce, sinon, il la délaisse et ne la prononce pas. Alors ceci va compléter sa foi et ceci va le préserver de nombreux méfaits. En effet, combien sont les paroles que l'homme prononce, puis qu'après il va regretter. Une fois que tu l'as prononcé, tu ne peux plus rien faire. La parole est partie. Il n'est pas possible de la faire revenir. Mais tant qu'elle est dans ta tête et que tu ne l'as pas prononcée, alors il t'est possible de choisir. Est-ce que je la prononce ou est-ce que je la délaisse? C'est pour cela qu'il convient à l'homme de prendre garde à ce qu'il prononce et de réfléchir avant de parler et de ne pas prononcer aujourd'hui une parole qu'il regrettera demain. Enfin, 27e, on tire comme bénéfice de ce hadith la précision des transmetteurs des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ici le transmetteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui renverse les gens dans le feu sur leur visage ou sur leur nez? Le sens, il est proche. Si la personne, elle est sur son nez, c'est qu'elle est sur son visage. Et si elle est sur son visage, elle est forcément sur son nez. Mais, de par leur amana, de par leur honnêteté et leur précision dans la transmission des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé cela. Et il y a en cela une réfutation de ceux qui prétendent que la sunna n'est pas une source sûre pour prendre la religion, que la sunna n'est pas une base de la législation islamique et qui prétendent que la sunna, il y a du faible, il y a du faux dedans et que l'on ne peut pas les distinguer et autres balivernes encore pour éloigner les gens d'une des sources sûres de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.